Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Les groupes ecclésiaux qui n'ont pas encore pris de mesures pour entrer dans l'espace cybernétique sont encouragés à étudier l'éventualité de le faire au plus tôt. Voilà ce qu'écrivait dès 2002 le Conseil pontifical pour les moyens de communication sociale dans un document intitulé « Église et Internet ». Si 18 ans après, la prime n'est plus tout à fait dans l'église aux prêtres tellement spirituels qu'ils finissent par écrire à la plume d'oie, il faut bien reconnaître que les chrétiens ne sont pas toujours des chrétiens 2.0 en France. Un blog, le Padre Blog, montre l'exemple, avec à la clé un succès étonnant, 30 000 fans sur Facebook, 14 000 abonnés sur Twitter. Et dans le Sud-Ouest, nous aussi, nous avons nos curés de choc, nos prêtres sur Internet, sur ce nouveau continent, comme disent certains, cette grande terre virtuelle de mission. Ces curés du Sud-Ouest qui sont sur la toile, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, nos curés cybernétiques, Guillaume Souris-Laverne, vous êtes curé de la mission catholique de Figeac dans le diocèse de Cahors, bonjour.
Bonjour.
Xavier Cormary, vous êtes curé de la paroisse Saint-François et Sainte-Claire en Ségala dans le diocèse de Rodez, bonjour.
Le diocèse d'Albi, bonjour à tous.
Diocèse d'Albi, pardon, excusez-moi. C'est très bien. Raphaël Buy, vous êtes curé de la paroisse Capnac-Gare, cette fois dans le diocèse de Rodez, et vous êtes à mi-temps prêtre formateur au séminaire Saint-Cyprien de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à vous trois, certains au téléphone, voilà, c'est les circonstances et la vie de prêtre font qu'on ne peut pas tous vous avoir en plateau, en chair et en os, mais en tout cas pour les auditeurs c'est comme si vous étiez présents. Alors on va parler d'Internet, de blog, de Facebook, d'Instagram et autres Twitter. Allez, j'avais une question pour commencer. Selon les enquêtes d'opinion, un Français passe en moyenne 5 heures sur Internet par jour. Vous êtes à combien chacun, Guillaume Souris-Laverne, donc si on commence par vous?
C'est la question piège, ça. ça ne veut pas dire grand-chose, parce que sur Internet, vous savez qu'on peut y écouter de la musique. Et moi, j'aime bien travailler, par exemple, avec de la musique. On peut y travailler directement en utilisant les fonctionnalités d'Internet. Il faut savoir, c'est l'instrument quotidien, à vrai dire. Dès que l'ordinateur est allumé, eh bien, il est connecté. Mais après, est-ce que la connexion, elle sert réellement à un travail de recherche sur Internet, etc. Ça, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, pour moi, c'est mon quotidien.
C'est votre quotidien. Xavier Cormary, si on fait un petit tour de table, vous êtes à combien, vous?
Bon, je mesure pas, mais c'est vrai que on passe du temps, c'est vrai sur les réseaux sociaux en particulier. Internet, c'est plus pour les recherches, quand il faut préparer un article, on a une base de données presque infinie pour chercher tel ou tel renseignement, tel ou tel document pontifical, c'est tellement plus facile de chercher une encyclique sur Internet que d'aller la rechercher quelque part sur une de nos étagères.
Raphaël Buy, rapidement.
Je vois que mes confrères n'ont pas donné.
Ouais, vous avez vu, hein. Vous auriez pu être 18. Hein,
je me risquerais à dire 3 heures, c'est peut-être beaucoup, mais comme je prépare des cours en ayant tout le temps Internet ouvert devant moi, et puis que je suis également sur les réseaux sociaux, je dirais que je passe trop de temps.
Alors Guillaume Souris-Laverne, on va commencer avec vous, parce que peut-être êtes-vous le plus actif à votre manière, en tout cas sur les réseaux sociaux et partage de messages plus immédiats comme Facebook et autres. On peut commencer par prendre un exemple. Je vais en citer quelques-uns. Quand on va sur votre compte Facebook, on voit que vous publiez très régulièrement, c'est à peu près tous les 2 ou 3 jours, des choses très brèves comme « Jesus Christ eternally refreshing », voilà, avec un parallèle avec la pub de Coca-Cola, en donnant des nouvelles de votre paroisse, ou en tout cas vos intentions missionnaires pour cette paroisse que maintenant, et qui s'appelle donc la mission catholique de Figeac pour la nouvelle année. On vous voit avec des cornes d'un élan en plastique, avec une image assez amusante, avec ce sous-titre « Un nouvel élan pour la paroisse en 2021 ». Comment vous êtes tombé dedans, Guillaume Souris-Laverne? Est-ce qu'un jour vous avez eu un déclic pour devenir comme ça un peu, entre guillemets, un enragé de Facebook?
Alors, je ne pense pas être un enragé de Facebook, parce que figurez-vous que j'y passe pas beaucoup de temps. Par contre, quand est-ce que j'ai commencé? Eh bien, j'ai commencé à mon corps défendant, puisque lorsque j'étais en charge de l'abbaye de Marcillac, une magnifique abbaye dont nous avons, avec un certain nombre de personnes que nous avons voulu promouvoir, eh bien, une de mes amies qui faisait partie de l'équipe d'organisation m'a dit bah, il faut absolument qu'on soit sur les réseaux sociaux, et en particulier Facebook. Et pour moi, il n'en était pas question, parce que je ne voyais pas du tout l'intérêt au-delà de la machine à produire de Lego. Et en réalité, ça a été une occasion extraordinaire, puisque j'ai découvert que, effectivement, ça peut être une machine pour développer son ego, mais ça peut être surtout un formidable moyen de communication avec très peu de, enfin, qui nécessite très peu d'argent. Et or, communiquer aujourd'hui, eh bien, ça coûte beaucoup d'argent.
Alors,
c'est comme ça.
Ça a été le déclic. Alors justement, on va en dire un tout petit peu plus. Ce projet, l'abbaye de Marcillac, vous pouvez rappeler de quoi il s'agit. Vous étiez curé dans le coin, vous êtes tombé sur une abbaye qui était, on va dire, à l'abandon, et qui est un lieu magnifique. Aujourd'hui, j'ai vu sur un de vos comptes Facebook, justement, que le parcours spirituel qui est proposé aujourd'hui dans cette abbaye a été élu meilleure destination européenne 2021. Racontez-nous un peu cette histoire et puis le rôle justement des réseaux sociaux pour faire décoller ça, y compris jusqu'à vos sons en parachute.
Ben voilà, en fait, la force d'un réseau, et encore une fois un réseau avec les moyens qu'on connaît aujourd'hui, donc nous on a commencé effectivement sur Facebook et sur Instagram et ensuite Twitter, eh bien la force d'un réseau c'est que ça nécessite pas beaucoup d'argent et ça permet d'avoir immédiatement un impact incroyable auprès de gens que vous n'auriez pas nécessairement l'occasion de côtoyer par ailleurs. C'est-à-dire, il y a des gens qui rentrent dans un réseau, qui sont intéressés par quelque chose que vous n'y auriez pas pensé, parce que ce n'est pas des personnes que vous rencontrez physiquement, mais eh bien, comme ça, il y a des personnes qui se sont directement, par exemple pour ce qui concerne l'abbaye de Marcillac, il y a des gens qui se sont passionnés jusqu'à l'étranger, pour l'abbaye de Marcillac.
Alors, posez le décor, peut-être, l'abbaye de Marcillac pour les nuls, le projet.
Ah oui, c'est vrai que je ne réponds pas à toutes les questions, pardon. Eh bien, l'abbaye de Marcillac, c'est une abbaye magnifique, dont les fondations encore visibles, puisqu'il y a un tympan qui est un des plus vieux d'Europe, date du 9e siècle. Donc, c'est 9e, 12e, et puis ensuite 17e siècle. C'est une abbaye dont moi, c'était devenu une église paroissiale, si vous voulez, et j'en suis devenu le curé. En étant curé de Cajar il y a quelques années. Et puis j'ai visité, parce qu'un prêtre venait de mourir, et donc l'évêque me dit « Ben Guillaume, je te donne 4 paroisses en plus à ta charge. Très bien, monseigneur, gardez-vous repos. » Et je vais visiter ces paroisses, et là je rentre pour la première fois dans cette abbaye que j'ignorais totalement, j'étais à 12 km, je n'en avais jamais entendu parler. Et là, coup de foudre, je découvre un lieu exceptionnel dont personne ne parle. Ou en tout cas, moi, je n'en avais pas du tout entendu parler. Et je me suis dit, là, il y a une grande injustice, il faut faire quelque chose, il faut qu'on puisse intéresser des personnes pour contribuer à la restauration de ce patrimoine exceptionnel. Alors c'est comme ça que l'aventure a commencé.
Vous avez donné de votre personne, est-ce que vous pouvez raconter l'épisode justement il y a eu plusieurs épisodes où on a parlé de vous un petit peu partout en France, c'est aussi la force parfois des réseaux sociaux d'aller chercher du soutien et de l'intérêt au-delà de sa sphère géographique naturelle. Par exemple, ce saut en parachute peut-être, et puis les incidences que vous n'auriez pas imaginé.
Ah oui, alors ce saut en parachute, ça a été vraiment extraordinaire. C'est le directeur de l'école de parachutisme de Cahors qui, sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, m'a lancé un défi. Alors vous savez que les auditeurs, je pense, tous connaissent de près ou de loin les réseaux sociaux. Et c'est un petit peu, si vous voulez, tout le monde peut voir ce qui s'y passe à partir du moment où vous publiez quelque chose. Et Gilles Esgrim donc m'a lancé un défi, et il a été malin parce qu'il l'a fait de façon à ce que je puisse pas ne pas répondre. Et il m'a dit Père Guillaume, nous les parachutistes, on aime bien ce que tu fais, on voit que t'es courageux, etc. Mais voilà, sache que nous on te soutient, mais que si tu montres, que si tu manifestes que t'as du courage, et donc moi je te lance un défi, tu sautes en parachute. Évidemment, j'avais aucune envie de sauter en parachute. Mais j'étais pris par le caractère public des réseaux sociaux et je pouvais pas dire bon bah oui je fais rien, etc. Et donc je me suis laissé embrigader là-dedans. Et alors on s'est servi de cette invitation pour faire la promotion de l'abbaye de Marcillac, puisque à l'époque, eh bien j'ai dit d'accord, ok, ça me fait vraiment flipper, mais j'accepte de sauter en parachute à partir du moment où j'obtiens, je crois que c'était 25 000 euros pour acheter l'orgue de l'abbaye de Marcillac. Et donc j'ai assorti le saut en parachute sur les réseaux sociaux à une sorte d'exploit personnel, parce que évidemment ça m'a coûté beaucoup. Et puis je pensais avoir mis la barre très haute en me disant 25 000 euros, de toute façon c'est énorme, il n'est pas question que ça arrive. Enfin voilà, c'était pas quelque chose qui était humainement réalisable rapidement.
Et ça s'est fait.
Et en réalité, il y a eu un buzz, alors donc un espèce de fourmillement sur la toile incroyable, un enthousiasme incroyable qui fait que beaucoup, beaucoup de personnes se sont intéressées au caractère marrant de l'opération, et de ce fait-là, eh bien, ont entendu parler de l'abbaye de Marcillac et ont contribué à la restauration.
Alors, Guillaume Sury-Lavergne, je vais donner la parole aux autres, hein, mais c'est vrai que je souhaitais quand même commencer par vous. Aujourd'hui, donc, vous êtes curé donc, de la paroisse de Figeac. Alors, cette paroisse, elle ne s'appelle plus une paroisse, si j'ai bien compris, elle s'appelle la Mission catholique de Figeac. Ça dit quand même l'intention profonde du projet pastoral de cette paroisse que vous voulez imprimer. Vous diriez quoi aujourd'hui? Vous diriez qu'en fait, Internet, c'est une partie de votre paroisse, que vous avez deux paroisses, la paroisse physique et la paroisse virtuelle. Est-ce que vous en êtes jusque-là?
Je dirais que c'est un formidable porte-voix pour la vie ecclésiale. C'est-à-dire que de manière très simple, avec plein de collaborateurs, en réalité, eh bien, on témoigne de la vitalité paroissiale, on donne des informations, on donne des rendez-vous, on donne des cours aussi, enfin donc on forme les paroissiens à partir d'un média qui est finalement entré dans quasiment tous les foyers. Donc c'est une formidable occasion en fait d'évangélisation. C'est un moyen d'évangélisation extraordinaire, pas cher et j'allais dire extrêmement démocratisé.
Allez, on va faire une première pause et puis on va retrouver nos autres invités. En dehors de l'abbé Sury Lavergne, assez présent sur les réseaux sociaux, parler de vos blogs, à vous Xavier Cormary et Raphaël Buy, ictus.fr et textala.fr entre autres, et plein d'autres questions autour de ce nouveau continent et peut-être ces nouvelles paroisses virtuelles pour vous.
Plus jamais seul, plus jamais vivre loin de toi, plus jamais seul. Wow, wow, wow. Automne sévère, mon univers s'écroule comme une simple feuille à terre. L'hiver prend place, mon pouce se glace sous des flocons, lourde confusion. Vivre ou mourir, il faut choisir. Quoi qu'il arrive, laisse-moi te dire. Plus jamais seul, plus jamais vivre loin de toi. Plus jamais seul. Wow. Nouveau printemps, mon âme reprend un second souffle, un nouvel élan. Voici l'été, il faut rêver, la tête dans le ciel bien étoilé. Enfin la vie, elle me sourit. J'ai bien saisi que je ne serai plus jamais seul, plus jamais vivre loin de toi, plus jamais seul. Wow, wow, wow. Plus jamais seul, plus jamais vivre loin de toi, plus jamais seul. Wow.
Vivante Église. Emmanuel Pella.
Ces curés du Sud-Ouest qui sont sur la toile, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient autour du plateau, Guillaume Souris-Laverne, qui est curé de la mission catholique de Figeac dans le diocèse de Cahors, Xavier Cormary, curé de la paroisse Saint-François et Sainte-Claire en Ségala dans le diocèse d'Albi, et Raphaël Buy, qui est curé de la paroisse Capdenac-Gare dans le diocèse de Rodez. Je citais dans mon introduction le Padre Blog, ces trois prêtres donc du diocèse de Versailles, dont l'abbé Grosjean, qui ont fait parler d'eux. Certains ne connaissent peut-être pas encore. C'est donc un blog tenu par des prêtres. Aujourd'hui, ils sont nombreux, qui a un succès absolument vertigineux. 30 000 fans sur Facebook, 14 000 abonnés sur le fil Twitter, 10 000 followers sur Instagram. Ils viennent de passer la main, ce début janvier 2021, à une autre génération, une génération de prêtres trentenaires. Ce sera par ça que je recommencerai. Xavier Cormary, je ne sais pas quel âge vous avez, mais est-ce que vous vous sentez déjà décalé avec la génération Z ou Y qui a, on va dire, Internet dans le sang?
Oui, c'est évident. Moi, j'ai déjà 48 ans, alors les 30 ans sont loin derrière moi. Ceci dit, je suis content de retrouver Raphaël Buy dans cette émission, puisque c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier d'Internet et en particulier du blog. Je crois que c'était en 2005.
Alors quand vous dites que vous vous sentez, entre guillemets, à moitié largué, ça veut dire quoi?
Moi, j'utilise Internet, mais tout ce qu'il y a, un blog, c'est facile parce que le site est déjà tout fait. Moi, je ne sais pas du tout utiliser les interfaces des sites. Créer un site, c'est quelque chose qui me dépasse. J'utilise Internet, mais quand ça marche et quand c'est facile. J'ai pas Internet dans la peau au point de pouvoir réaliser par moi-même un site ou faire ce genre d'approche, je dirais, plus technique du réseau Internet.
Guillaume Souris-Laverne, vous vous sentez davantage dans le coup, vous vous faites aider. Comment est-ce qu'on essaye de, on va dire, d'être à la pointe sur le continent numérique?
Au contact des jeunes, vous comprenez que vous n'êtes jamais à la pointe. Que on a un savoir-faire aujourd'hui, un savoir-faire des technologies contemporaines. Qui fait que l'agilité des jeunes est souvent bien meilleure que la vôtre. Et vous découvrez, alors ils vous font découvrir des tas de choses que vous ignorez complètement. Non, en fait, je suis complètement largué, hein. mais j'ai été introduit en son temps par des technologies. Par exemple, Facebook, dont on parle, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont même pas sur Facebook parce qu'ils trouvent que c'est has-been. Plutôt sur Instagram, TikTok, etc. Donc vous voyez, on est déjà il faut prendre ce type d'instruments tels qu'ils sont réellement. Ils peuvent être des occasions, mais évidemment c'est pas, encore une fois, on va pas être dans le coup parce qu'on utilise ces outils. C'est simplement parce qu'on a besoin d'utiliser ces outils, il me semble, aujourd'hui.
Alors, il y a plein de questions derrière ça, mais j'aimerais qu'on continue à faire connaissance un petit peu plus avec vous, puisque vous êtes là, et puis avec votre activité sur la toile. Xavier Cormary, quand on se balade sur le site de la paroisse dont vous êtes le curé, vous vous présentez comme un blogueur blagueur et blogueur invétéré. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous pouvez nous présenter ce blog?
Alors, à l'origine, il faut rappeler quand même, Internet n'a que 20 ans à peu près. Internet s'est démocratisé pour le public à partir des années 2000. Et c'est vrai que donc quand on se retrouvait entre jeunes prêtres, avec Raphaël et d'autres amis du séminaire, on se rendait compte à quel point Internet prenait petit à petit beaucoup d'espace. On voyait fleurir ici et là des blogs institutionnels, le blog du Vatican ou des évêques de France. Mais moi, ce qui m'avait interpellé dans les années 2002-2003, c'est que c'était difficile de trouver des sites Internet de vulgarisation de la foi chrétienne. Alors Raphaël, il nous en parlera sans doute, lui, il avait aussi une approche à la fois un peu similaire et différente, mais moi, j'avais souhaité vraiment pouvoir donner une approche assez pragmatique, assez, abordable de la foi chrétienne en disant je suis prêtre et j'essaye de parler, je dirais, à des gens qui ne vont pas lire les encycliques du pape, qui ne vont pas forcément aller sur les sites institutionnels, mais qui chercheront une réponse à une question auprès de chrétiens, auprès d'un prêtre éventuellement. Voilà, ça c'était mon souhait, mon intuition première.
Alors de fait, quand on se balade sur votre site internet, on peut trouver donc un certain nombre de billets, par exemple « Dis-moi à quoi sert la foi ?»« L'homme moderne face à la mort », là vous parlez davantage, et peut-être on va s'arrêter là-dessus un peu de votre travail pastoral et des questions qui vous traversent. Vous réagissez sur des sujets de société, « Gilets jaunes, oui et non, oui ou non, point d'interrogation ». J'ai été surpris parfois par le ton, la liberté de ton sur vos blogs. Alors peut-être est-ce parce que vous n'avez pas 30 000 followers, mais enfin parfois ça gratte, vous dites vraiment ce que vous pensez. J'aimerais m'arrêter sur l'homme moderne face à la mort. Vous parlez en fait de votre vie de prêtre. Comme beaucoup de prêtres aujourd'hui, vous accompagnez souvent à l'occasion de funérailles. Et alors vous avez ces phrases un peu piquantes. Vous dites que à l'occasion des funérailles, en fait, on laisse entendre qu'une étoile brille dans le ciel, qu'un ange dans le ciel veille désormais sur nous, mais que rarement il y a une personne qui va dire que Mamie Rose qui vient d'être enterrée, elle croyait au Christ ressuscité, et que ça vous fend le cœur en fait quelque part. Est-ce que vous pouvez un peu vous arrêter sur ce billet? C'est quoi? C'est un billet en forme de coup de gueule sur les Français et la mort?
Oui, parce que c'est vrai que dans la pastorale, je dirais, de terrain, que ce soit les funérailles, que ce soit l'accompagnement vers le mariage, la pastorale familiale, voilà, souvent on se rend compte que, par exemple, la mort, elle est devenue tabou, mais la résurrection, elle est devenue encore plus. Et c'est vrai que prononcer le mot de foi, de résurrection, les familles, les proches du défunt, même si c'était la grand-mère qui était très croyante, qui avait une grande foi, qui priait, qui allait à Lourdes tous les ans, etc., on aura assez de pudeur, assez de gêne pour exprimer cette dimension de la personne. Du coup, voilà, dire que la mamie, elle croyait en la résurrection, elle avait foi en Jésus-Christ, ça vient très rarement dans les hommages aux défunts.
Alors,
et je dis que c'est un vrai défi aussi de dire il faut annoncer la résurrection à travers les réalités et face à la mort, quoi.
Alors Xavier Carmarico, quand vous écrivez un billet comme ça, en fait, vous l'écrivez parce que vous avez enfin un espace où vous pouvez, entre guillemets, vous lâcher et dire à ceux qui vous suivent ce que vous avez sur le cœur, parce qu'on imagine que ce n'est pas quelque chose que vous dites en chair, par contre.
Ça dépend, si, ça arrive. Disons que moi, je suis convaincu que l'Internet est un moyen extraordinaire, comme le disait Guillaume, de communication, surtout pour rejoindre des gens qui ne viendront pas frapper à la porte du presbytère pour rencontrer un prêtre. C'est pour ça que mon blog, c'est un presbytère virtuel. Voilà, je me pose une question, si je demandais à un prêtre, mais j'oserais pas venir frapper au presbytère pour l'interpeller ou pour le questionner. Voilà, par contre, voilà, j'ai souvenir d'innombrables rencontres de lecteurs du blog qui ont osé regarder mon blog et puis peut-être m'envoyer même un message pour réagir.
Alors, et ça, prenez un exemple peut-être justement cette paroisse virtuelle est devenue de chair et d'os.
Je me rappelle, je vais donner un autre prénom, il s'appelle Frédéric, c'est un jeune qui était à l'époque militaire, qui est rentré dans la police à Paris, et il m'a dit, il cherchait des réponses sur les Templiers, et sur la franc-maçonnerie. Et il m'a dit, j'étais à moitié bourré un soir, je me questionnais, et j'ai tapé sur internet, blog, prêtre, discussion sur Templiers. Et il est tombé par hasard sur mon blog, et voilà qu'il m'a envoyé un message. Si bien qu'on a commencé à converser sur ce sujet-là, et puis plein d'autres par la suite. On est devenus un petit peu des amis, même s'il habite loin. Et c'est vrai que c'était une rencontre assez inattendue, et une rencontre impossible dans la vie réelle, du fait des distances, mais aussi du fait que ce garçon n'aurait jamais osé aller trouver un prêtre comme ça.
Alors vous, votre blog s'appelle donc ictus.fr, on va y revenir dessus, et puis je vous oublie pas, Guillaume Souris-Lavergne. Raphaël Buy, vous, votre blog s'appelle textala.fr, même question qu'aux autres, en fait, comment ça vous est venu? Quel a été le déclic?
Alors je dois dire, c'est plutôt une curiosité technique. Voilà, j'étais intéressé par les blogs, mais sur le fait qu'on puisse, comment dire, je ne l'ai pas vu comme un outil de communication d'abord, mais pour, je voulais savoir m'en servir. Et donc j'ai appris un peu le HTML et ça à ses débuts. Et alors, comme je n'avais pas de raison particulière de communiquer comme mes deux prédécesseurs, Guillaume et Xavier l'ont fait, j'ai mis en fait des textes que j'avais déjà écrits en me disant que ça me servirait un peu comme ce qu'on appelle aujourd'hui un cloud, comme une sorte de disque dur disponible pour que le moment venu, quand j'ai besoin de, dans une rencontre avec quelqu'un, de signaler un texte, eh bien ce texte-là, je l'avais à disposition puisque je l'avais mis dans, dans mon blog. C'est comme ça que c'est venu. Donc ça a un aspect un peu plus décousu, plus...
Comment vous le décririez, votre blog, alors aujourd'hui?
Je dirais presque une sorte de cloud, quoi. Voilà, donc c'est là que j'y mets les, mes homélies, c'est là que j'y mets les conversations que j'ai pu avoir avec tel ou tel sur Facebook ou dans les réseaux sociaux. Quand je pense que ça demandait un peu de réflexion et que ça peut servir à d'autres, je le mets là et ça sert de, c'est un peu en réserve pour que le jour où je pense dans une conversation, quand je visite une famille et qu'on parle de baptême par exemple, s'il y a un, je me rappelle qu'il y a un texte qui, sur lequel j'avais déjà réfléchi, je peux lui
vous renvoyer au blog.
Renvoyer.
Alors de fait, sur votre blog, c'est, enfin, c'est beau, hein, c'est, vous, vous partagez à cœur ouvert, parfois des choses assez personnelles. Vous y mettez vos homélies désormais, vous dites d'ailleurs en toute simplicité qu'après avoir lu les gens, l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium où le pape François demandait de bien travailler les homélies, vous êtes dit oulala, il faut que ce soit plus rigoureux et que maintenant vous avez décidé de les mettre en ligne pour vous obliger quelque part à travailler, hein, si, si j'ai bien compris. C'est pareil, il y a parfois des choses enfin, très franches. Allez, si on s'arrête sur un comment dire un de vos billets avant qu'on revienne sur peut-être des considérations plus larges sur sur internet, il y a un billet que vous avez publié qui s'appelle N'ayez pas peur. Je me souviens plus de la date, mais c'est à se demander en tout cas si vous l'avez pas publié à l'occasion du Covid. Vous rappelez cette phrase de Jean-Paul II lorsqu'il a été élu, N'ayez pas peur, 22 octobre 1978. Vous citez aussi Alexandre Solzhenitsyn, qui disait, semble-t-il, dans un discours à Harvard, que ce qu'il frappait en Occident, c'était le déclin du courage, disant « Le déclin du courage est peut-être le trait le plus saillant de l'Ouest aujourd'hui pour un observateur extérieur. » Pourquoi vous avez écrit ce billet ?
Eh bien, c'est comme je vous le disais, c'était pas d'abord un billet de blog, c'était une newsletter pour les paroissiens. Au tout début du confinement, au premier confinement, il y avait eu un certain nombre de réflexions qu'on voyait dans, sur Internet, tout ça, et que je partageais, y compris venant de milieux non-croyants, qui considéraient qu'on troquait les raisons de vivre pour la simple recherche de la survie. Et je me disais qu'il y avait quand même une réflexion sur le courage qui avait été menée donc, par ces deux grands penseurs de Solzhenitsyn et puis Jean-Paul II, puisque ces deux phrases, ces deux citations, « N'ayez pas peur » et puis « Le déclin du courage » datent de 1978, c'est la même année qu'ils ont prononcé cela.
Mais le fond de votre pensée dans ce billet, quel était-il en fait ?
Eh bien, quand, je me dis, quand on est dans une période où on n'a plus les raisons de vivre, on ne voit plus nettement pourquoi on serait prêt à donner sa vie, eh bien, il ne reste plus comme seul motif de l'existence que de conserver les moyens de subsistance, les moyens d'existence, c'est-à-dire la survie. C'est une réflexion que j'avais lue il y a déjà pas mal d'années chez Fabrice Hadjadj dans un de ses premiers livres, « Réussir sa mort, anti-méthode pour vivre », où il disait cela. On a deux sagesses, une sagesse du don de soi, de donner sa vie, une sagesse du sacrifice, parce qu'on a des raisons de le faire. C'est pas qu'on... Et puis notre sagesse inversée, qui est celle du suicide, c'est-à-dire de se donner la mort, parce qu'effectivement on n'a pas de raison de vivre.
Preuve que donc vos billets sont nourrissants et puis grattent un peu. Guillaume Souris-Lavergne, vous diriez quoi sur Internet, en fait, il y a quoi? Différents niveaux de communication? C'est-à-dire à la fois on tease pour garder le lien, pour continuer à tenir la main des personnes, et puis parfois on peut aller plus en profondeur comme ça. Est-ce qu'on utilise Internet avec différentes intentions, en tout cas quand on est curé comme vous?
Alors, effectivement, c'est-à-dire que l'idée, c'est que Internet est un outil, c'est un outil multiforme, et il doit être adapté à l'utilisation que vous voulez en faire. Par exemple, j'ai la chance de pouvoir m'occuper d'un certain nombre de... Par exemple, je m'occupe d'une troupe de théâtre, eh bien, il y a une communication qui est propre à cette troupe de théâtre. Le projet de restauration de l'abbaye de Marcillac, c'est un type de communication, la mission catholique de Figeac, c'est un type de communication, etc. etc. Donc il faut arriver à... D'abord, on ne mélange pas les genres. Et alors, pour ce qui me concerne, vraiment, cet outil Internet, j'ai essayé de relever un certain nombre de bienfaits que ça a apporté dans ma vie de curé de paroisse. J'allais dire que Internet, pour moi, ça apporte d'abord des potentialités nouvelles. On l'a vu au moment du confinement, les réseaux sociaux ont permis, alors là je pense plutôt à YouTube, ont permis de ce qu'on puisse être en direct, avoir la messe en direct pour des paroissiens qui n'avaient plus la messe puisqu'ils ne pouvaient plus y venir. Ça c'est incroyable, il y a quelques années, enfin c'est inimaginable. On pouvait regarder la messe qu'à la télé, quoi, qui est sur les chaînes nationales. Ensuite, Internet, c'est un instrument qui, dans mon parcours, m'a permis de me permettre de rencontrer des gens qui avaient un savoir-faire inespéré et incroyable. Je vous donne un exemple. L'abbé de Marcillac, il y a un jeune américain qui avait 17 ans à l'époque, qui a entendu aux États-Unis parler de l'abbé de Marcillac et il est venu m'aider pendant un été. Ou alors vous avez un organiste italien qui a eu le coup de cœur pour l'abbaye grâce aux réseaux sociaux, et il a apporté, ça a été l'artisan, on va dire quasiment, enfin il était en première ligne pour l'orgue de Marcillac, et aujourd'hui il y a un orgue dans l'abbaye de Marcillac, et c'est en partie grâce à lui, c'est lui qui l'a inauguré, etc., etc. Donc des rencontres incroyables et inespérées. Ensuite, c'est un outil collaboratif. Alors un exemple tout récent, je suis en train de réaliser avec des paroissiens un carnet de chants pour la paroisse et pour les paroisses qui veulent se le procurer.
Oui, et vous, c'est un
travail énorme.
Et vous leur avez lancé un défi d'ailleurs.
Et alors c'est pas un défi, j'ai lancé un appel au service. C'est-à-dire que j'ai dit voilà, j'avais besoin d'une quinzaine de personnes, une quinzaine de volontaires qui m'aident à réaliser une tâche bien précise, qui est une tâche très compliquée, ardue, qui demande beaucoup de temps. Et moi j'ai pas ce temps. Mais en posant en demandant un service sur Internet, eh bien, j'ai eu les 15 personnes qui sont encore en train de travailler aujourd'hui. Ils contribuent à un projet incroyable. Alors, chacun a sa petite mesure. Vous voyez le principe de la collaboration, eh bien, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Et au bout du compte, on a un édifice incroyable. On a une œuvre qu'on n'aurait pas réussi à faire tout seul et qui est rendue possible grâce aux réseaux sociaux. J'y vois encore deux autres...
Allez-y rapidement, et pour donner la parole aux autres.
Je suis désolé, je parle beaucoup. En fait, Internet m'a forcé, et là quand même, je trouve que c'est assez fort, m'a forcé à me replonger très sérieusement dans l'étude, puisque je suis en train, et je termine bientôt, un parcours de découverte de l'Esprit-Saint. Et donc l'intérêt, c'était pour moi de donner un savoir aux paroissiens, alors un savoir plutôt pratique, mais aussi un peu intellectuel, sur qui est l'Esprit Saint, quels sont ses dons, etc., etc. Ça m'a demandé un travail énorme. Donc j'ai produit.
Vous voulez dire que c'est Internet qui vous a obligé à travailler, c'est ça ?
Eh ben, en fait, c'est ce moyen extraordinaire de pouvoir communiquer par les réseaux sociaux, oui, m'a donné l'occasion de devenir professeur en quelque sorte, puisque de mon côté j'ai beaucoup travaillé, et puis j'ai eu à cœur de restituer tout ce que j'avais appris par ailleurs. Et donc j'aurais jamais imaginé être en quelque sorte professeur. Et là vous voyez, quand j'y repense, ben j'ai plus de une quinzaine d'heures de direct. Donc, alors, de cours donnés aux paroissiens.
Alors, avant, Xavier Cormarie, peut-être vous, je suis tombé entre autres sur cette phrase, qui ne vous surprendra pas, c'est un article du journal La Croix, alors c'est un article qui datait un petit peu. L'Église n'est pas à la pointe en matière de multimédia, même si elle a fait beaucoup de progrès, hein. Il y a des sites internet maintenant pour tous les diocèses, pour un certain nombre de paroisses, mais parfois c'est difficile de s'inculturer, tout le monde ne va pas jusqu'à, comme le Padre Blog, on va dire, investir massivement du temps et essayer de rejoindre, on va dire, la culture de la génération d'en dessous. Vous avez l'impression que l'Église est un peu à la traîne sur ce sujet, vous qui êtes un blogueur invétéré, comme vous dites.
Je sais pas si on est à la traîne, parce que utiliser les réseaux sociaux et Internet suppose vraiment d'entrer dans une forme de détachement, parce que ce que l'on publie, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas qui va le lire, et surtout, on ne sait pas si on va avoir un retour. Et ça, c'est assez frustrant. Moi, J'utilise bien sûr Facebook, mais par exemple pour les jeunes, c'est Snapchat. Alors Snapchat, c'est cette messagerie instantanée. Les messages s'effacent quasiment automatiquement. Et c'est frustrant parfois de ne pas pouvoir relire le message qu'on a envoyé la veille. Mais surtout, c'est encore plus frustrant quand les jeunes, on voit qu'ils ont lu le message, mais il n'y a aucune réaction, il n'y a aucun retour. Ils sont au courant et ce qu'on leur a proposé, c'est des fois ça tombe un peu dans l'oreille d'un sourd, quoi. C'est une autre manière de communiquer. Il faut arriver à entrer dans cette forme de communication qui parfois, et souvent je dirais même, est un petit peu à sens unique. Alors on se dit, mais on s'aime. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va germer? Et c'est la question souvent de ce que je me pose. Mais c'est vrai aussi dans la pastorale courante. On baptise, on va faire du caté, et puis les enfants, après la première communion, ils disparaissent. Et on les revoit 10 ans, 15 ans après, quand ils viennent pour préparer leur mariage. Et je crois que c'est un peu pareil sur Internet. Il faut accepter de semer sans trop, un peu à l'aveugle. On ne sait pas si ça tombe sur... le bord du chemin, si ça tombe dans la pierraille ou dans les ronces. Et peut-être parfois aussi quand même dans la bonne terre. Heureusement, on a des témoignages dans ce sens.
Allez, on va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour continuer à parler de vos activités sur Internet et puis de l'urgence de la présence sur ce continent numérique. Je rappelle cette phrase qui date de 2002 quand même, ça m'a étonné. Les groupes ecclésiaux qui n'ont pas encore pris de mesures pour entrer dans l'espace cybernétique sont encouragés à étudier l'éventualité de le faire au plus tôt. Voilà, c'est du langage bien du Conseil pontifical pour les moyens de communication sociale, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Dès mes premiers pas sur la terre, j'en ai besoin déjà. Quand je cite mes premières prières, il faut que tu sois là. Dans les moments de galère, je n'y échappe pas. Quand la vie semble être un enfer, je sais qu'elle est là. Ah, ah, oh. J'ai besoin de ta main posée sur moi pour vivre. Entendre le son de ta voix et garder le sourire. D'une mère, ça ne se remplace pas. Le regard protecteur d'un père, ça ne se refuse pas. Ah, ah, oh. J'ai besoin de ta main posée sur moi pour vivre. Entendre le son de ta voix.
Dans le Lauragais, 97.9.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ces curés du Sud-Ouest qui sont sur la toile, c'est pour rappel le thème de l'émission de ce matin. Autour du plateau, Guillaume Souris Laverne, curé de la mission catholique de Figeac, Xavier Cormary, curé de la paroisse Saint-François et Sainte-Claire en Ségala, dans le diocèse d'Albi, et Raphaël Buis, curé de la paroisse Cap-de-Nague dans le Gard, c'est pour le diocèse de Rodez. Je voulais recommencer avec vous, Guillaume Souris Laverne, peut-être en vous provoquant un tout petit peu. Internet, on peut se dire aussi que parfois il y a un livre d'un enquêteur français et sociologue qui parle de l'archipel, d'une France de plus en plus éclatée et de plus en plus communautariste, où chacun vit un peu sur son île, parfois y compris les catholiques. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi parfois avec les réseaux sociaux? C'est le côté un peu communautariste, parce qu'on entend en fait les deux dans ce que vous dites. À la fois, on sent que ça permet de fédérer un corps autour de votre mission catholique de Figeac, de toucher parfois plus large. Mais est-ce que c'est pas un peu la prime parfois un peu au communautarisme, à l'entre-soi? Est-ce que vous le voyez un peu cette dérive potentielle?
C'est une question qui est pas simple dans sa réponse, parce que je pense qu'en fait, c'est comme tous les instruments, tout dépend de l'intention avec lequel vous l'utilisez. Je vous ai dit que au début, ce qui me plaisait pas du tout a priori dans les réseaux sociaux, c'est par exemple la machine à Lego. Faire des réseaux sociaux, une occasion de montrer son nombril, etc. Alors, est-ce qu'il y a, de toute façon, il faut savoir que, par exemple, les algorithmes que vous utilisez par exemple sur Facebook font que effectivement, dans vos amis, dans ce qu'on appelle les amis, donc les gens qui suivent un peu vos publications, en réalité, effectivement, progressivement, il y a une sorte d'unification de la sphère qui tourne autour de votre compte. Donc ça, c'est une réalité. Est-ce que c'est un danger? Je vous avoue que, de toute façon, ça peut être un danger pour quelqu'un qui voudrait ne graviter qu'autour de son cercle d'influence, ça c'est une évidence. Après, sur les réseaux sociaux, vous avez tout. Il y a beaucoup d'informations. Moi, il m'arrive d'avoir des informations, informations graves, un attentat, etc., etc. Je la prends d'abord par les réseaux sociaux, avant de la prendre par la radio ou par je ne sais quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a une rapidité, il y a une spontanéité de ces réseaux qui fait que on est au courant très vite de tout ce qui se passe dans le monde.
Alors,
la question, vous voyez, est un peu compliquée, parce que il y a toujours un risque. Ce risque, il existe même dans le fonctionnement même d'un compte comme Facebook. Mais évidemment, pour nous qui sommes prêtres, qui utilisons cet outil ad extra, c'est-à-dire vraiment pour éclairer ceux qui voudraient recevoir des informations, qui voudraient connaître le Christ, etc. Ils ont la possibilité justement de s'ouvrir à une réalité qu'ils ne connaissent pas encore.
Guillaume Souris Laverne, on se connaît un tout petit peu, alors je me permets de vous pousser encore un peu plus loin. Vous avez un évêque de temps en temps, met en garde contre le cléricalisme. Quand vous vous êtes mis en scène pour, par exemple, l'abbaye de Marcillac, vous portez une soutane, on vous voyait donc souvent, on va dire, en vidéo, comme porteur de projet, quelque part, et comme curé, on va dire, plein de courage et de zèle. On imagine que vous en êtes aussi pris un peu parfois plein la figure. Est-ce que le risque aussi, c'est pas de cléricaliser un peu les réseaux sociaux? C'est parfois le reproche que certains font au Padre Blog. Qu'est-ce que vous diriez de cette critique?
Je dirais que le prêtre, par nature, il est au combat. Il est dans la mêlée, il est auprès des gens blessés, il est dans cet hôpital de campagne que le pape appelle de ses voeux, donc il est partout. Il est partout où il peut. Et vous avez raison, on peut se prendre des claques. Vous avez raison, on peut être se rendre présent auprès de personnes qu'on n'imagine pas. Enfin voilà, il y a vraiment cette... C'est vrai que, j'allais dire, ça manifeste clairement et j'allais dire sereinement que le prêtre n'est pas appelé à rester tranquillou dans son entre-soi ou paroissial ou presbytéral ou je ne sais quoi, mais qu'il est en définitive donné pour les autres, même ceux qu'on n'imaginerait pas.
au risque de que certains considèrent que ça peut favoriser une forme de cléricalisme.
Bah, le cléricalisme, c'est pas nécessairement d'être qu'un prêtre soit prêtre. Le cléricalisme, c'est que on impose aux autres une façon qu'ils ne voudraient pas, ou alors que on considère les autres dans une optique qui soit uniquement sacerdotale. En l'occurrence, bah voilà, qu'un prêtre soit un prêtre, moi ça me choque pas du tout, et au contraire. Après, évidemment, si derrière votre question il y a c'est dangereux, bah, clairement oui. Clairement, tout ce qui expose aujourd'hui un prêtre à, j'allais dire, sortir un peu de la mêlée, c'est dangereux, mais c'est d'abord une épreuve intérieure. C'est-à-dire, c'est dangereux, j'allais dire, pour lui-même, pour sa vie de prêtre. Parce que, vous savez, c'est très facile de perdre la tête, de s'imaginer qu'on a du succès parce qu'il y a des gens qui regardent, parce que je sais pas quoi. Et en fait, ce qui est extraordinaire quand on est curé de paroisse, c'est que, rassurez-vous, les gens, ils vous rappellent bien à la réalité. C'est que le travail, il n'est pas virtuel, il est à faire réellement. Et voyez, il peut y avoir effectivement un décalage entre un travail qu'on ferait uniquement de manière virtuelle, hein, avoir des grandes conversations, des grandes idées, etc., sur Internet. Ça, c'est pas très compliqué. Après, le but du jeu, c'est de faire en sorte, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait sur réellement auprès des gens vers qui on est envoyé. Et je crois que la vie du prêtre diocésain, là, rassurez-vous,
témoin,
mais mes confrères, on a vraiment les pieds dans la boue. Voilà, les mains dans le cambouis.
Xavier Cormary, en préparant l'émission, j'ai cherché des prêtres, des religieux, des religieuses, même des laïcs. Alors j'avoue que pour les laïcs, je me suis assez vite découragé, qui étaient assez présents sur la toile et qui, on va dire, qui étaient présentés comme des chrétiens engagés. Alors peut-être que j'ai pas assez poussé ma recherche, mais c'est vrai que la seule chose que j'ai trouvée avec une rapide recherche, c'est quelques prêtres comme vous qui essayent de faire leur part. Ça vous surprend ?
Non, enfin, c'est-à-dire qu'il faut visiter la diversité des réseaux. Je vois sur Instagram, il y a pas mal de jeunes cathos qui se mouillent sur Instagram. C'est un autre moyen de communication différent de Facebook ou des blogs. Ce qui m'apparaît, moi, important, c'est de ne jamais s'enfermer sur un mode de communication. Vous voyez, je suis assez actif sur les réseaux sociaux, mon blog, bon, il fonctionne depuis 15 ans, mais je vois à quel point, alors j'écris aussi une chronique mensuelle dans le journal papier Le Tarn Libre, dans le Tarn, et je suis chaque semaine stupéfait d'être interpellé par des lecteurs du journal qui me disent « Ah, je lis votre chronique dans le journal ». Alors, autant il y a des dizaines et des centaines de gens qui viennent sur le blog, je les connais pas, quelques-uns réagissent, rarement, mais autant chaque semaine aussi j'ai des réactions très très concrètes dans la rue, dans la paroisse ou ailleurs, de gens qui me disent « je lis le journal ». Donc il y a une multiplicité de manières de communiquer, Internet en est une. À mon sens, il ne faut pas l'abandonner, il ne faut pas le laisser de côté, mais ne jamais s'enfermer uniquement sur Facebook, uniquement sur un site Internet.
Raphaël Buis, peut-être pour finir l'émission, à tout seigneur, tout honneur, est-ce que vous pouvez nous parler de ce prêtre dont je n'avais pas entendu parler, vous m'en parliez avant l'émission, qui est un prêtre, on va dire, assez âgé de votre diocèse et qui, lui, a des milliers de personnes qui le suivent sur Internet.
Oui, il y a le père Jean Compazieux. qui est prêtre en rural à Salles-la-Source et qui tient maintenant...
Salles-la-Source, c'est donc... Oui,
Salles-la-Source en Aveyron.
C'est non, petit.
C'est une toute petite paroisse. C'est même pas une paroisse, c'est un des relais paroissiaux de la paroisse de Marciac et qui tient maintenant deux sites internet où il y met ses homélies depuis des années et il doit avoir quelque chose comme, je sais pas, peut-être 8000 abonnés à sa newsletter.
Alors vous disiez que c'était des gens de toute la France parfois, voire du monde entier, c'est ça ?
Du monde entier. Il m'avait raconté cette anecdote qu'à Lourdes, il avait dû prononcer son nom, je ne sais pas à quel moment, et puis des prêtres africains sont retournés. Il m'a dit, mais vous êtes le Jean Compazieux du blog, du site des homélies. Ben oui, c'était lui.
Alors voilà. Comment il a construit ça ? C'est-à-dire, en fait, il y a quoi, plusieurs dizaines d'années, il a commencé à mettre des homélies sur Internet et après, ça s'est fait naturellement ?
En fait, je pense qu'on a de commun, alors qu'il y a peut-être 30 ans de différence entre nous, qu'il s'est intéressé d'abord à la technique, à Internet. Il donnait au début d'Internet, il donnait même des cours... Il expliquait aux jeunes comment se servir d'Internet, etc., la programmation. Et puis, je pense que le jeu, ça l'a pris. Il y a mis ce qu'il écrivait. Lui, il écrit ses homélies depuis très longtemps. Moi, ça fait seulement depuis 3 ans qu'il écrit.
Il n'y met que ses homélies.
il n'aimait que ses homélies, voilà.
Et après, alors, il a fait en sorte que ça se sache, et ce, dans le monde entier, ou en fait, ça s'est fait comme une bouche à oreille, c'est ça, le tam-tam mondial.
Ce sont des sites qui sont bâtis sur la plateforme WordPress, et donc il y a la possibilité d'y abonner ceux qui y visitent, donc d'y mettre une newsletter, et donc petit à petit, il y a eu, je ne sais pas comment ça s'est fait, il a dû y avoir un buzz avant même les réseaux sociaux, qui fait que je pense que c'est un des sites d'homélie les plus lus, quoi.
Rappelez-nous son nom.
Jean Compazieux.
Jean Compazieux, donc il y a des
dimancheprochain.org.
Dimancheprochain.org, il y a donc des fidèles qui le suivent jusqu'en Afrique. On peut rappeler le site, enfin vos deux blogs, à vous, Xavier Cormarieux, ictus.fr, et vous, Raphaël Textala.fr. Et puis sur les réseaux sociaux, à suivre la mission catholique de Figeac 2.0 avec l'abbé Guillaume Souris Lavergne. Merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église. Pardon pour tous ceux qui, dans le sud-ouest, auraient une activité cybernétique et apostolique importante, bah, tournez-vous vers la paroisse si on est passé à côté de vous, vers Radio Présence, de façon à ce qu'on vous fasse connaître. Merci beaucoup. À la technique, Christophe Aubry, vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.